parler de d'autres projets. Parce que, en tout cas, pour ceux qui ont déjà vu peut-être mon travail ou qui ont regardé mon site, même pour moi, c'est difficile parce que c'est une espèce de labyrinthe. Il y a beaucoup de choses, il y a trop de choses, et je m'y perds moi-même. Et donc, j'avais envie de faire avec ce projet Islande une espèce comme ça, de coupe dans mon travail et de prendre un segment de mon travail qui est globalement la question de l'identité. Alors, donc, Islande, que je vous explique de quoi il s'agit. Donc, il n'y aura pas le son, mais ce n'est pas très grave. Je pense que Internet devrait fonctionner normalement. Où ça s'est arrêté? Ah, ça marchait. Ça... Ah, voilà. Donc, Islande, que je vous explique très rapidement de quoi il s'agit. C'est super simple au début. En fin de compte, c'est un projet que j'ai fait à l'époque où Sarkozy était président de la République et où il y avait des débats sur l'identité nationale. Qui était très très bizarre, qui était assez répugnant et qui nous ont entraînés vers le fond. Depuis, ça a continué, ça a empiré. Et donc, cette question de l'identité, je la trouvais intéressante parce que je ne comprenais pas, à titre tout à fait personnel, ça partait vraiment d'un truc personnel assez adolescent. Je me disais, mais je ne comprends pas ce qu'ils ont avec la question de l'identité parce qu'apparemment, ils savent qui ils sont. Et moi, je ne sais pas du tout qui je suis, quoi. Et c'est ce qui me définit, quoi. Donc, c'était assez classique, hein. C'est vraiment je est un autre, comme le truc classique. Voilà, très 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 standard. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai utilisé un scanner, un scanner qui permet de scanner son empreinte digitale et qui est utilisé habituellement pour ouvrir la session de son ordinateur. Donc, ça permet d'identifier, un truc de surveillance finalement. Et donc, ensuite, j'ai passé mon empreinte digitale dans un moteur de jeux vidéo qui sert à faire des jeux vidéo qui sont vendus dans le grand public. Et en fin de compte, donc l'empreinte digitale, elle est constituée de noir et blanc et de niveau de gris. Et quand c'est blanc, ça faisait une élévation en hauteur. Et quand c'est noir, c'est au niveau zéro. Et en travaillant un peu, ça a permis de faire cette espèce d'île glaciaire, espèce d'iceberg un peu, voilà, un peu post-apocalyptique, avec un logiciel qui n'arrête pas de parcourir indéfiniment toutes ces empreintes digitales. Et l'idée, c'est que l'empreinte digitale, c'est un dessin qu'on porte tous sous nos doigts. En fin de compte, on a des dessins sous les doigts. Et ce qui est amusant, c'est que c'est un dessin ineffaçable. C'est-à-dire qu'il faut se brûler la peau pour... Parce que sinon, on s'enlève la peau, quand on s'en repousse, le dessin revient. Et cette idée d'avoir un dessin sous les doigts, et sous les doigts qui nous servent aujourd'hui à taper sur un clavier, ça me semblait quoi, c'était quelque chose que je trouvais très émouvant. Et puis je trouvais que finalement, cette question d'identité, c'est-à-dire d'utiliser quelque chose qui est habituellement utilisé pour faire de la surveillance et pour savoir qui est qui, à partir du moment où on s'en rapproche beaucoup plus, ça devient totalement, comment dirais-je, comme un pays, en fait, presque. Comme si chacun d'entre nous portait un pays sous ses doigts, et que c'était donc juste une question de distance, en fin de compte. Si on se rapproche beaucoup de cette chose-là, ça devient un territoire qu'on peut explorer indéfiniment. Donc ça, c'était un peu le... Donc ça avait été un travail qui avait donné lieu à une vidéo. Et puis à des impressions de très grand format, de type photographique, qui avaient un aspect assez réaliste et qui permettait de voir les cernes de l'empreinte digitale. Alors bien sûr, ça peut se relier à toute une tradition dans l'art contemporain d'artistes qui ont utilisé leur empreinte digitale, soit pour signer, soit pour faire des œuvres finalement. Et donc voilà, donc ça m'a amené à plusieurs sujets, donc à la question de l'identité. Alors, en fin de compte, j'ai fait plein de projets sur la question de l'identité. J'en ai fait plein. Et c'est toujours dans ces années-là, parce qu'effectivement, j'ai vu vraiment. Et c'était un peu une réaction. C'était un peu une réaction à la situation politique française. Moi, je suis parti en 2005, 2005-2006. Je suis parti 10 ans au Canada. Parce que, vraiment pour des raisons politiques, en fin de compte, c'est que je n'aimais pas tellement ce qui se passait ici. Il y avait eu ce qui s'était passé dans les banlieues. Où ils s'étaient immolés eux-mêmes, enfin, quand ils avaient brûlé, ils avaient cassé leurs propres infrastructures. Et là, il n'y avait eu aucune réponse de personne. Et donc, cette question de l'identité, ça me chagrinait pas mal. Donc, j'ai fait plusieurs projets. Il y a un projet. Donc, il y a plusieurs projets. Il y a un projet qui s'appelle Insigne, qui est un projet de photographie. Et là, c'est toujours mon empreinte digitale. Et en fin de compte, ce que je fais, j'ai créé un filtre dans Photoshop qui prend mon empreinte digitale et qui en fait une, qui fait que ça déforme mon empreinte digitale. Donc c'est mon empreinte digitale dans mon empreinte digitale. Et ce qui fait que quand on redouble l'empreinte digitale, elle devient illisible en fin de compte. Et il y avait cet aspect extrêmement photographique, assez plastique. Donc c'était des photographies d'assez grand format, avec toujours l'idée de voir cette chose invisible de l'empreinte digitale, mais en plus grand. Donc j'avais fait ça. Ensuite, je m'étais dit, mais finalement, l'identité. Alors, c'est des idées assez simples, en fin de compte, hein. L'identité, c'est quelque chose pourquoi je ne sais pas qui je suis, parce que je n'arrête pas de changer. Bon, c'est une idée toute simple, hein. Bon, je crois qu'on le sait tous. Et donc, j'avais fait une installation interactive qui s'appelait I Just Don't Know What to Do with Myself, donc qui est une citation d'une chanson de pop musique anglaise. Et donc, en fin de compte, là, c'est une installation interactive où on a un capteur. Digital, donc ça se présente sous cette forme-là. Donc là, on a le capteur, on pose son doigt et on a son empreinte digitale, sa propre empreinte digitale qui apparaît. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'elle s'anime de cette façon-là, c'est-à-dire qu'elle se disloque comme si elle était plongée dans un liquide et que les fragments se tapaient les uns contre les autres. Et donc ça fait une espèce de tableau infini, c'est-à-dire que l'empreinte digitale est la base, non pas d'une identification et d'une stabilisation, mais la base d'un mouvement qui va être infini, puisque toutes les cernes vont interagir les unes avec les autres et vont se cogner de façon physique et dynamique. Et donc, c'était de montrer que finalement, à partir de cette image qu'on utilise pour identifier et quantifier les gens, et ben, on peut en faire complètement autre chose finalement. On peut utiliser des technologies de surveillance pour faire exactement l'inverse que de la surveillance. Tout dépend de l'orientation qu'on donne à ça, en fin de compte. Il n'y a pas de. L'identification, il y a pas et la surveillance, c'est pas inhérent à l'être humain, quoi. C'est pas inhérent à notre corps. Bien sûr, dans tout ça, ce qui me choquait dans ce monde post-11 septembre, le monde identitaire français, c'était bien sûr bah, le rapport à des théories qui avaient été développées au 19e siècle et qui consistaient à quantifier les êtres humains, quoi, à savoir aller. Et c'est toujours passé par l'identification, c'est-à-dire la phrénologie, le fait de reconnaître les caractéristiques psychologiques d'un individu par ses attributs physiques. Bon. Et je trouvais qu'il y avait une espèce de retour à ça assez bizarre et assez ethniciste en plus, avec tout cet arrière-plan qui était assez, quoi, moi, qui m'a vraiment choqué. Et puis ça m'a amené aussi à me dire, bah, finalement, non seulement je change tout le temps, mais en plus, mon identité, elle est toujours liée à celle des autres. Alors ça, c'était une installation qui avait été réalisé au musée d'art contemporain de Taipei, à Taïwan, où j'avais eu un solo. Donc, en fin de compte, c'était la même chose. On posait ses deux mains et ça détectait le battement de notre cœur. Donc, on entendait le battement de notre cœur vraiment amplifié. Et on avait notre image vidéo qui apparaissait et qui disparaissait selon le battement de notre cœur. Donc, pendant 5 battements de cœur, on voyait notre image. Et ensuite, le sixième, on voyait la personne précédente. Et en fin de compte, à mesure qu'on restait, on voyait tout l'historique de l'installation, c'est-à-dire qu'on voyait tous les gens qui avaient vu l'installation, comme si dans le battement de mon cœur, il y avait le battement du cœur de chaque personne qui m'avait précédé. Pour montrer qu'effectivement, bah, voilà, il y avait cette idée d'une histoire qui est liée à une identité transindividuelle, pour parler comme Simenon. Alors, et puis, bien sûr, moi, je suis assez obsédé par Internet, puisque c'est un peu ma grande spécialité. Puisque bah, voilà, Internet, c'est vraiment un truc que je fais depuis 1994, donc je suis vraiment partie de cette première vague de net artistes, où en 1994, on s'est vraiment dit, voilà, c'est le truc important de notre époque, et je suis content qu'on ait eu cette intuition, parce que ça s'est révélé exact, finalement. Maintenant, c'est évident, mais en 1994, tout le monde disait, mais non, mais le Minitel, c'est beaucoup mieux. Et donc, j'ai fait
Il n'y a pas
un...
beaucoup de gens qui disaient ça en 94,
Comment?
que le Minitel était beaucoup
Si,
mieux.
si, parce qu'en 94, c'est le tout début. 94, c'est le
Mais...
début de. Les gens n'avaient même pas Internet chez eux. Moi, j'ai eu accès à Internet à l'IRCAM, parce que je travaillais à Beaubourg. Et à l'IRCAM, c'était l'un des premiers centres où il y avait du web. Mais non, non, il y avait vraiment le modèle du Minitel. C'était très.
Oui, qui était plus démocratique.
Il était plus démocratique, alors qu'il était payant, comme bref. Il y avait
Par contre, il ne voulait pas.
plein de choses. Non, non, bien sûr. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, très rapidement, avec une bande de camarades, on s'est dit, voilà, Internet, c'est pas une technologie, c'est un monde. Et ça va changer notre subjectivité. C'est pas un truc qu'on va utiliser, ça va changer notre manière d'être au monde. Alors, moi, je suis content que ça s'est révélé effectivement exact. Hein, maintenant, on le sait. Donc, ce que j'ai fait, bah, vous connaissez tous cette fonction de Google, c'est on rentre dans une image, enfin, on rentre une image à soi, et puis il nous trouve une image qui ressemble. Donc, ce que j'ai fait, j'ai cherché toutes les images d'enfance que j'ai, de mon enfance, donc dans les livres de famille, etc. Et j'ai fait ça, donc j'ai fait un livre de ça. Donc, j'ai été chercher dans Google des images qui ressemblaient. Et donc, en fin de compte, il y a ma vie, mais il n'y a pas une seule image de moi. C'est que des images d'autres personnes, en fin de compte. Et c'était cette idée de raconter mon histoire sans être présent du tout dans cette histoire-là, et en étant vraiment dans une mémoire beaucoup plus collective. Et donc, ça crée une espèce de comment dire, de livre assez étrange. Donc, c'est un livre qui a été publié, où on essaye de s'imaginer l'histoire de cette personne dont on voit les images, mais qui ne sont pas les images d'une seule personne, mais de millions de personnes, finalement. Ça pourrait être n'importe qui. Donc, il y avait cette idée d'une mémoire anonyme. Alors, pourquoi, moi, ça m'intéresse? Et pourquoi c'est vraiment obsessionnel? Alors, c'est un des travaux sur ça, mais il y en a beaucoup. C'est parce que, bien évidemment, je me suis beaucoup interrogé à partir du moment où il y avait le web 2.0, c'est-à-dire la possibilité que les gens, en fin de compte, que les gens déposent leur mémoire sur Internet, par les réseaux sociaux. Je me suis demandé pourquoi on faisait ça. Et j'avais vraiment le sentiment que c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on faisait ça, c'est-à-dire qu'on enregistrait la mémoire des anonymes. Normalement, on se souvient de la mémoire des scientifiques, des politiques, des artistes. Mais les anonymes, on les oublie dans l'histoire. Le propre, il n'y a pas d'archives, très peu des anonymes. Il y a l'état civil, mais c'est quoi? Ça remonte au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle. Là, ça remonte à la Révolution française, je pense, l'état civil. Bon, mais globalement, on oublie l'histoire des anonymes. Et on vit pour la première fois une époque où l'histoire des anonymes est enregistrée de manière intégrale. Et ça coûte des sommes absolument monstrueuses. Et l'usage de ça n'est pas évident. On dit c'est pour la publicité, mais non. Finalement, j'essaierai de conclure sur pourquoi finalement on a enregistré massivement la donnée, les vies de tous les anonymes. Alors si je suis trop long, vous me dites stop. Hein, vraiment, parce que ça peut continuer assez longtemps. Donc il y avait cette manière de devenir impersonnel grâce à Internet. Et puis après, je me suis dit, mais finalement, l'identité, c'est parce que bah, je suis aux mains des autres, quoi. C'est-à-dire que je dépends beaucoup des autres et j'interagis beaucoup avec les gens. Et donc, je décide pas toujours de ce que je fais. Donc, j'avais fait une performance. Donc, c'était pendant une exposition à Montréal. Donc, c'est Ma vie est une fiction interactive. Donc, moi, j'étais chez moi. Il y avait cet écran dans l'exposition, avec là un bouton et un autre bouton. Et en fin de compte, ce que je faisais tous les jours pendant un mois, quand j'avais un choix à faire, par exemple, je fais cette conférence, j'avais mon téléphone, je parle ou je me tais. Et donc j'envoyais ça sur l'exposition. Et s'il y avait quelqu'un, il choisissait pour moi et je faisais ce qu'il me demandait de faire. Bien sûr, dans une exposition, il y a souvent personne. Donc souvent, j'étais devant des alternatives et j'attendais que quelqu'un me réponde. Et donc j'étais bloqué, un peu comme dans un jeu vidéo. Vous savez, quand on est sur un no man's land, quoi, une espèce de truc où on est sur un mur et on tape. Donc pendant un mois, j'ai vécu comme ça. Ça a complètement détruit ma vie, quoi. Et en même temps, c'était aussi la question de la capture de l'attention, qui est la grande question d'Internet, qui est le fait que l'attention est devenue le cœur du capitalisme, le fait de capturer l'attention, quoi. C'est le fameux temps de cerveau disponible de Lely. Donc voilà, donc c'était une expérience, je ne la referai pas. Hein. C'était super intense. Et puis, toujours sur cette identité, voilà, il y a. Alors, le son, je vais le mettre là pour le coup, parce que c'est important. Donc, c'est aussi la question sur Internet de toutes ces images qui se rencontrent et qui n'ont rien à voir. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo sur. J'en ai fait pas mal des comme ça.
Les services de bureau, le son risque d'être
Eh bien, pourri. j'aurais voulu que nous puissions considérer notre propre culture comme quelque chose d'aussi étranger à nous-mêmes,
Comment dirais-je, mes thèmes se sont développés.
Que la culture, par exemple, des Arabes ou des Juifs
Si
ou
vous
des
entendez.
Mbiquara, ou comme la culture chinoise, par exemple. Bien sûr, il y a très longtemps que nous essayons de ressaisir, soit par les travaux des historiens, soit par les travaux des sociologues, nous essayons de ressaisir comme un objet, comme
Donc
une
c'est
chose qui
Foucault
serait là devant nous, notre propre
qui parle de
culture.
l'étrangeté
Mais
des autres
les
cultures.
historiens étudient
Et donc,
essentiellement des phénomènes
j'ai mis
économiques.
ce
Les
Google,
sociologues,
là.
ils étudient quoi? Eh bien,
Et
ils
vous allez voir,
étudient
finalement,
comportement,
Foucault accompagne
le comportement politique, le comportement sexuel.
Sa parole correspond complètement au
Parce
thème
que, jusqu'à présent, on n'a jamais considéré comme un phénomène étranger à lui-même notre propre sympathie. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est...
Donc c'est des pratiques aussi qui sont beaucoup fréquentes sur Internet, qui consistent à mélanger deux YouTube. Donc je l'avais fait sur Stigler avec PNL, je l'avais fait sur Mathieu Girard avec, avec quoi je l'avais fait, je l'avais fait avec d'autres intellectuels, donc de mélanger des samples avec leurs paroles, et finalement le beat correspondait complètement, et donc à un moment ça devient complètement autre chose, et donc voilà, donc c'était cette question de la duplicité. Alors cette question de l'identité, ça s'est développé autrement. Alors en fin de compte, l'une des grandes questions, c'était sur cette question d'identité, c'était la question de l'absence et de ce sentiment d'absence un peu généralisé qu'on a. Et donc ça avait commencé par une petite sculpture. Donc j'avais utilisé un truc qui sert pour mettre des iPads quand on dort. Donc c'est une espèce d'araignée comme ça qu'on met. Et sur lequel il y avait un écran gravé, quoi, une espèce de plexiglas gravé où il était marqué je ne me souviens pas de ma vie avant Internet. C'est-à-dire cette idée qu'avant Internet, Internet se souvient mieux de ma vie que je ne m'en souviens moi-même. C'est-à-dire que si dans 40 ans, je souhaite savoir ce que j'ai fait aujourd'hui, je ferai plus confiance à la mémoire d'Internet qu'à ma propre mémoire. Parce qu'aussi, cette mémoire d'Internet va me survivre. Quand je serai mort, ce qu'il y a dans les data centers, ce qu'il y a sur le réseau, cette mémoire va continuer à exister. Et donc, ça veut dire que dans cette folie de l'hypermnésie propre aux réseaux sociaux, l'une des raisons de cette hypermnésie, c'est que, bien sûr, c'est un combat contre la mort. La fameuse phrase « devenir éternel et puis mourir dans Un bout de souffle », je crois. C'est cette idée qu'on enregistre toutes ces données parce qu'on sait qu'on va mourir et que quelque chose va rester de nous. Alors ça, je vous le démontrerai, hein, j'ai un travail sur ça. Je vais vous démontrer que c'est vrai, ça. Et donc, bon, il y avait cette question d'histoire, et puis, je vais arrêter le son. Bon, peut-être que je vais démontrer. Alors, il m'est arrivé une expérience assez terrible, et qui nous est tous arrivée, c'est la perte d'un disque dur. C'est-à-dire on a un disque dur, on a enregistré les données, et il tombe en panne, et on perd les données dessus. Je sais pas si vous arrivez. Ça vous est tous arrivé, non? Oui? Ça vous est tous arrivé, non? Jamais? Bon, bah quand ça arrivera, parce que ça arrivera, en fin de compte, ou sinon on écrit un texte. Imaginons on écrit un texte, et l'ordinateur tombe, plante, et on n'arrive pas à retrouver le texte qu'on avait écrit, et on n'arrive pas, donc on est dans l'impossibilité, on ne peut pas réécrire le même texte, parce qu'on l'a déjà écrit, on ne peut pas écrire un texte complètement différent, parce qu'on souhaite s'en rappeler. Bon, ce qui se passe, c'est qu'on délègue de plus en plus notre mémoire personnelle à des supports matériels, donc on est très dépendant de ça. Donc ce disque dur, c'était un disque dur que j'avais perdu 6 mois de ma vie dans ce disque dur. Donc derrière ça, j'avais été très très déprimé, c'était affreux, quoi. J'avais perdu des travaux artistiques, c'était affreux. Et donc, je me suis demandé qu'est-ce que je peux en faire. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis des capteurs sur ce disque dur. C'est lié. Parce qu'un disque dur qui ne marche pas, il fait du bruit en général. Il commence à faire du bruit. Tac, 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 tac. Donc là, ce qu'on entend, c'est le bruit du disque dur, avec le bras qui tape. Et puis après, selon le niveau sonore, l'image qu'on voit derrière, j'envoyais le niveau sonore, le chiffre, à Google, et il me renvoyait une image. Donc, pour dire, voilà, ce disque dur, il arrive encore à aller chercher des images sur Internet. Et ce qui était très bizarre, c'est que souvent, c'était des images de compétitions sportives. Parce que c'est souvent les brassards avec le numéro des gens. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et donc, on avait ce disque dur avec des gens qui couraient souvent, ou des voitures de course, comme une espèce de combat entre l'être humain et la machine. Et c'est comme si cette histoire... Et ça, c'est un truc qui est très spécifique à cette forme de création qui utilise Internet en temps réel. C'est que quand on est artiste, on n'est pas du tout en maîtrise. Et parfois, on a un résultat qui nous surprend. Et qui l'histoire qui arrive sur Internet. Et ça, c'est une... comme un peu comme dans le dripping, c'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse. Donc il y avait cette idée de délégation de la mémoire sur des supports matériels, donc cette question de la transformation de la rétention, pour parler en termes comme Stigler. Et puis, bien sûr, le fait que sur Internet, on n'arrête pas d'attendre. Donc ça, c'était une pièce qui s'appelait L'Attente, qui est de 2007. Et en fin de compte, c'était le début de Twitter, en 2007. Et donc, j'avais été à la gare du Nord filmer des gens qui attendent des panneaux de signalisation. Vous savez, les gens qui attendaient comme ça et qui regardent l'heure. Et c'est très beau, les gens qui regardent l'heure, parce qu'ils sont comme ça, un peu comme s'ils regardaient Dieu, quoi. On ne sait pas très bien. Ils sont en attente. Et dessus, je faisais défiler des sentiments, des gens qui écrivaient des sentiments sur Internet. Et cette espèce de situation dans laquelle on est tout le temps, nous, c'est-à-dire sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, de toujours, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais on l'est de plus en plus, de toujours être en attente que quelque chose se passe. Un peu comme quand il y a une fête, à 4h du matin, tout le monde devrait partir et les gens restent parce qu'ils attendent que quelque chose arrive qui n'arrivera sans aucun doute jamais. Il y a une espèce de moment de flottement assez beau, les gens ont un peu fumé, ont un peu bu, etc. Et il y a ces moments d'attente. Et je trouve que dans cette transformation de l'attention, il y a quelque chose qui interroge l'art, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui qu'être attentif à une œuvre d'art, qu'être attentif au cinéma, quand on est tout le temps interpellé dans cette attente où rien ne se passe et on est toujours en train d'attendre quelque chose. Donc ce rapport à l'information que je trouvais assez poétique finalement. Et puis bien sûr, Internet, ce n'est pas une technologie, c'est un territoire des affects. C'est-à-dire que ça, il y a du désir. 60% des couples américains se rencontrent aujourd'hui sur Internet. Donc il y a du désir, il y a des affects, il y a de la sexualité. C'est le lieu, le territoire principal des affects, Internet. Et donc en 2011, j'avais fait un projet qui s'appelait Transmission. Like him getting farther from him. Donc là, c'est des sentiments. I have been hoping for a successful pregnancy for over 18 months now, and it feels farther away than ever. Donc c'est des sentiments en temps réel que j'ai cherché sur Internet, et c'est un paysage qui est créé par rapport à ces sentiments. Les arbres, le relief, dépend des types de sentiments. Donc j'avais classé les sentiments selon qu'ils sont heureux ou malheureux, et selon ça, ça crée des reliefs, donc on naviguait dans ce territoire des sentiments. I'm quite behind on my writing donc, currently, un projet de 2011. And while it feels overwhelming, I recognize that I'm currently in a position to take the time to catch up. Une petite anecdote comme ça, il y avait eu un site internet américain qui s'appelle Allison Secret et qui a été hacké. Et c'est un site pour des hommes pour tromper leurs femmes. C'est l'objectif du site. Donc en général, c'est des hommes assez âgés et assez laids qui parlent avec des femmes assez jolies. Un peu dans la logique sugar daddy américain. Et en fin de compte, en hackant ce site, ils ont compris que 95% des profils de femmes étaient des chatbots. C'était des logiciels. Et moi, je soupçonne les hommes qui étaient sur ce site de le savoir. En tout cas, ils avaient un doute sur la nature des choses. Donc, on est déjà en train... Et qu'est-ce qui se passe sur un site de rencontre? Les gens se masturbent, quoi. C'est même l'activité principale des sites de rencontre, bon, au-delà de la rencontre. Et je me disais, je trouvais ça super intéressant que les gens commencent à douter de à qui ils parlent, qu'ils soient comme dans une espèce de test de Turing permanent. Et ceci, bien sûr. Et donc, je me suis vraiment interrogé donc, sur cette identité avec les réseaux sociaux. Et donc, j'avais fait une application sur Facebook donc, qui s'appelait « J'aurais aimé être l'un d'entre vous ». Et en fin de compte, c'est que quand vous installez cette application sur Facebook, ça vole les statuts de tous vos amis. Et ça les publie. Donc, en fin de compte, c'est un peu sur la question du no-life, hein, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de vie sur Internet. Et en fin de compte, on peut tout à fait, en laissant ce logiciel tourner, on peut tout à fait poster des statuts d'une vie qui est celle des autres, en fin de compte. Donc vivre grâce à la vie des autres. Voilà. Et donc on peut très bien, comme ça, on n'interagit pas, et puis on poste des images, on vit la vie de tous les autres, quoi. Alors j'avais fait des projets comme ça, par exemple, je demandais à des amis d'installer un logiciel de hacking chez eux, où je pouvais savoir tout ce qu'ils faisaient sur leur ordinateur. Je pouvais voir leur caméra, entendre ce qu'ils faisaient, etc. Il n'y en a pas eu beaucoup qui ont accepté. Je passe comme ça en revue pour vous montrer juste une coupe sur la question de l'identité. Il y a eu, vous connaissez sans doute ce site qui a eu son heure de gloire, Chatroulette. Chatroulette, c'est un site qui a été développé par un jeune russe qui a eu un énorme succès il y a quelques années. J'avais fait ça en 2010, donc c'était déjà il y a 7 ans. En fin de compte, c'est un site de webcam où on se connecte, et on tombe complètement au hasard sur n'importe qui. Donc tout se mélange, des gens qui veulent se marier, des gens déguisés, des gens qui se masturbent. C'est une espèce de truc complètement... Et ça a eu un énorme succès à un moment donné. Et donc moi, ce que j'ai fait, j'ai été sur ce site. Donc à un moment, on me voit, je pense. Donc en fin de compte, le système, j'ai fait une performance pendant 24 heures, non-stop. Donc je vais sur ce site, j'enregistre la vidéo de la personne à qui je parle, Ensuite, je diffuse, je me reconnecte, je vais voir quelqu'un d'autre et je diffuse l'image de la personne à qui j'ai parlé. Et je fais ça en boucle. Donc, en fin de compte, on voit toujours la personne précédente parce qu'ils ont compris au bout d'un... C'est pour ça que ça a été, ça s'est arrêté, chat roulette, c'est qu'ils ont compris que plus de la moitié des profils, c'était des vidéos préenregistrées avec des boucles. Voilà. Donc, on ne savait pas très bien à qui on parlait, finalement. Et puis ça m'a mené toujours cette question de sentiment à faire d'autres projets avec les sentiments sur Internet. Donc là c'est Netsy. Et c'est un océan généré en temps réel dont la variation aussi, alors ça peut aller jusqu'à la tempête, dépend des sentiments qui sont trouvés sur Internet. Donc l'idée de l'océan avec la métaphore assez classique de Internet comme océan, comme la mer, etc. Et moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que quand on passe d'un sentiment à un autre, on s'imagine un peu que c'est la même personne, parce que c'est une voix qui l'a dit. Et on s'imagine une personne qui sentirait tout ça à la fois. C'est-à-dire qu'il passerait d'une seconde à l'autre, d'un sentiment à l'autre. Or, l'instabilité des sentiments, cette incapacité à être dans une seule humeur, si on parle à pas mal de psychiatres aujourd'hui, c'est l'une des caractéristiques de notre époque. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a cette technologie d'Internet qui est avec laquelle on est dans une multiplicité de sentiments. On est en contact avec trop de sentiments. Donc voilà, donc ça c'était sur un peu l'absence. Et puis, je vous montre comme ça des choses. Hein. Vraiment, vous n'hésitez pas à m'arrêter. Sur cette identité, il y a une idée, alors c'est un concept que j'ai créé, quoi, je crois, je ne suis pas sûr, mais je crois, qui s'appelle l'infinitude. Alors l'infinitude, pourquoi j'ai... Mais c'est vraiment d'abord j'ai fait les travaux, et puis après je me suis dit, tiens, et puis j'ai eu cette idée de créer un concept. Ça m'arrive parfois. L'infinitude, ça veut dire finitude et infini. Normalement, c'est deux choses qui sont opposées. La finitude, c'est le fait qu'on va mourir, le fait qu'on est fini, qu'on a une finitude, et l'infini, bah, globalement. Et l'un des grands problèmes de la pensée, de l'art, c'est... comment, en étant un être fini, comment je peux avoir accès à l'infini? C'est si on lit les écrits de Giacometti, si de pas mal d'autres artistes, on se rend bien compte que leur problème, c'est comment accéder à l'infini. Comment sentir l'infini alors que j'ai une perception finie. Et donc, j'ai essayé de faire des projets sur cette infinitude, c'est-à-dire ce qui mélangerait notre finitude, notre perception finie, et puis l'infini. Alors, exemple. Exemple où... pas des exemples parce que finalement c'était des choses qui étaient antérieures. Alors, elle est finie parce que d'abord j'ai une perception limitée dans le temps et l'espace. Je ne perçois que quelque chose, je ne perçois pas tout, par définition. Elle est localisée. Donc elle est localisée à un moment donné, mais surtout elle est finie parce que je suis mortel. Je vais mourir.
Ce qu'elle perçoit peut être interprété.
Alors d'abord, ce qu'elle perçoit peut être interprété de façon différente, mais aussi ce que tu perçois et ce que je perçois. Même si c'est un phénomène commun, c'est pas du tout la même chose. Il y a un autre niveau, c'est que tu vas mourir, je vais mourir, sans doute, on peut le supposer. Et quand tu vas mourir et quand je vais mourir, tout ce qu'on a perçu va disparaître en grande partie. On est mortel. Et c'est pour ça qu'on a une perception finie. Donc voilà, globalement c'est ça. Mais c'est une idée discutable, hein. On pourra en discuter parce que bien sûr c'est plus compliqué. Mais donc, pour moi, la question de la finitude, bon, pour moi, il y a une œuvre d'art qui est bien sûr les cathédrales de Rouen, qui est pour moi, bon, vous connaissez cette série, donc les cathédrales de Rouen, l'artiste vient, je ne sais pas, ça dure un an, je crois, ou deux ans, ou trois ans, il vient régulièrement voir ces cathédrales de Rouen et il fait une série de peintures. Où c'est la même position de la cathédrale de Rouen, mais la cathédrale de Rouen change, la couleur change, parce que la perception change, la saison change, etc. Et je me suis dit, ce serait quoi aujourd'hui les cathédrales de Rouen? Donc, j'ai fait la nouvelle version des cathédrales de Rouen, le retour. Donc, ce que j'ai fait, j'ai cherché sur Google toutes les images des gens qui ont fait une cathédrale, qui ont photographié la cathédrale de Rouen. J'en ai trouvé 800. Ensuite, je l'ai passé, alors je vais être un peu technique là, dans un logiciel qu'on appelle un logiciel de photogrammétrie. La photogrammétrie, c'est un vieux procédé du 19e siècle. À partir de photographies, si j'ai plusieurs photographies d'un même objet, je peux en déduire un volume en trois dimensions, en comparant les images. Donc j'ai rentré toutes les images dans un logiciel de photogrammétrie. Et ce logiciel de photogrammétrie m'a permis de faire une cathédrale de Rouen en 3D. Donc là, on en a un exemple. Là, on a la vidéo de la cathédrale de Rouen en 3D, qui est le résultat des 800 photographies trouvées sur Internet. Voilà. Donc ça, c'est cette cathédrale de Rouen, donc je me déplace dedans en 3D. Donc on voit un peu le relief de la cathédrale de Rouen. Et étonnamment, elle a quelque chose d'impressionniste. Elle est un peu floue, elle est un peu imprécise. Ses bords sont un peu fluctuants. Et ce que j'ai été jusqu'à... je ne sais jamais comment. Et donc, j'ai été jusqu'à l'imprimer en 3D, en fin de compte. Donc, ça crée un volume qui est une impression 3D de la cathédrale de Rouen, des 800 photographies. Donc, en fin de compte, c'est comme l'inverse des cathédrales de Rouen d'origine. C'est que là, c'était au début, c'était l'affirmation de la subjectivité d'une personne. Et là, moi, je pars des anonymes, de leur mémoire, de la mémoire d'une mémoire collective. Pour créer une autre... Ce qui fait que ça, bon, ça pose après plein de questions, mais bon, voilà. Donc, j'ai fait la nouvelle version. Alors, je passe rapidement. Mais comme ça, pour vous dire sur l'identité, sur qu'est-ce que c'est pour moi créer... voilà. Alors ça, c'est très simple. C'est un logiciel très simple qui prend Google Earth. Non, c'est Google Maps. Et qui va n'importe où au hasard dans Google Maps. Et c'est tout. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que souvent, c'est abstrait. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que moi, en tant qu'artiste, je ne fais pas ces images-là. Mais en créant ce logiciel, j'ai après la surprise de découvrir des territoires dans lesquels je ne penserais jamais aller. Donc il y a une espèce d'effet de surprise. Il y a dans la Grèce antique, bon, bref, dans la Grèce antique, il y a des trucs comme ça, avec des peintres, tout ça. Bon, sur le hasard, sur le fait que représenter la nature, c'est il faut utiliser des techniques avec du hasard, avec de la contingence. C'est aussi parce qu'une entreprise privée est en train de décider ce qu'est le monde, ce qu'est notre monde. Et puis, toujours dans ce sentiment de dépersonnalisation, j'ai fait un autre projet qui s'appelle At Night. En fait, vous savez, quand vous prenez l'avion et que vous allez atterrir sur une ville la nuit, c'est très très beau parce que il y a le moment où on est très loin de la ville, on voit juste les lignes, puis on se rapproche progressivement, on commence à voir les voitures, et brutalement on redevient humain. Et donc là c'est un logiciel on peut choisir n'importe quelle ville sur Terre, et ça va créer un vol plané au-dessus de cette ville, où on n'atterrit jamais. On survole toujours la ville, on n'atterrit jamais. Donc là c'est Los Angeles. Donc en fait, techniquement, ça prend le plan de OpenStreetMap, qui est un peu une version open source de Google Street Map, et ça la transforme en une espèce de... Donc on se déplace comme ça dans une ville, progressivement, de manière infinie. Et alors moi, je suis obsédé par quelque chose, c'est justement le fait de se déplacer dans un espace de manière infinie. Et je n'arrête pas de faire ça. Et Islande, c'est exactement ça. C'est que même si c'est une capture vidéo, mais on pourrait faire tourner la chose pendant un siècle, on aurait toujours le même paysage, mais on ne le verrait jamais de la même façon. Et le fait de pouvoir... Moi, en fin de compte, quand j'avais 9 ans, j'ai vu Empire de Warhol. Mes parents m'avaient amené dans une expo à Beaubourg, je pense, où il y avait Empire de Warhol. Donc vous connaissez ce film très connu, 8 heures. Et personne n'a vu le film, a priori. Personne n'est resté 8 heures à voir ce film. Très peu. Bon. Il y a eu un artiste qui avait fait une performance pour voir pendant 8 heures ce film. Et en fin de compte, je m'étais dit, mais c'est le bâtiment. Pour donner la présence. Enfin, je me disais, si personne ne peut voir le bâtiment pendant 8 heures, et personne ne peut voir le film pendant 8 heures, donc c'est la même chose. Et peut-être que la seule manière qu'on a de faire des images qui ressemblent à ce que ça représente, c'est de faire des images qui durent plus longtemps que la perception humaine. Enfin, c'était un peu. Donc ça m'a travaillé. J'avoue, ça m'a travaillé. Et donc j'ai fait un projet, j'étais en résidence à la Villa Kuruyama à Kyoto, en 2014. Et donc il y a un jardin très connu à Kyoto qui s'appelle le jardin du Royanji. David Hockney a travaillé dessus, l'exposition de David Hockney, il y avait des images de jardin japonais, c'est le jardin de Royanji. Marcel Duchamp a fait un projet dessus, etc. Ça a été vraiment quelque chose de très important. Alors pourquoi ? C'est un jardin très particulier, c'est un jardin du 15e siècle qui a été sans aucun doute, on suppose, fait par un artiste plasticien. C'est un jardin sec qui est constitué de 15 pierres. Peut-être qu'il y a des images du jardin d'ailleurs. Non, il n'y a pas d'image du jardin. C'est constitué de 15 pierres et la légende veut que, où qu'on soit dans le jardin, on ne voit jamais que 14 pierres, parce qu'il y a toujours une pierre qui vient en cacher une autre. Je sais qu'il y a 15 pierres, mais je n'en vois jamais que 14. Donc ma conscience est infinie, mais ma perception est limitée. Et l'hypothèse, bien sûr, c'est qu'on perçoit l'infini parce qu'on est limité. Les deux ne sont pas opposés. Donc ce que j'ai fait, j'ai eu l'autorisation, ça a été très compliqué, avec un drone, de survoler le jardin du Royal NG pour le numériser et en faire ce qu'on appelle un nuage de points. Donc c'est un modèle 3D en nuage de points. Et donc après, de faire un logiciel qui se déplace de manière infinie sur ce jardin. Et donc potentiellement, peut-être qu'à un moment, on arriverait à trouver la vue où on voit les 15 pierres en même temps. Mais peut-être qu'il n'y aura personne pour le voir. Il n'y aura pas de témoin humain. Et cette idée que la machine pourrait faire quelque chose d'extraordinaire, mais il n'y aura pas de témoin humain pour le voir, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Le fait que quelque chose existe sans l'être humain, en l'absence de l'être humain. Et cette absence-là, à mon avis, elle est centrale, en tout cas dans mon travail, dans ce que j'essaye de faire depuis quelques années. Donc aussi, cette question de la dépersonnalisation, alors c'est toujours la même musique, mais là je vais arrêter cette musique. Ça m'a mené à... Alors... En fait, j'ai fait pas mal... J'ai fait un gros... C'est une partie du travail, mais c'est un travail sur un lieu qui est absolument interdit aux êtres humains, dont l'être humain n'a pas le droit de rentrer. C'est les data centers. Donc là, c'était des photographies des data centers que j'avais fait. Et puis, j'avais créé un effet où on avançait indéfiniment dans ces data centers. Parce que c'est des endroits, en fin de compte, c'est là où donc sont enregistrées toutes les données. Bon, je pense qu'on a tous entendu parler. Donc en général, c'est des endroits qui sont localisés. Il y en a de plus en plus au Canada parce que c'est un pays froid et qu'il faut le refroidir, les data centers, parce qu'un ordinateur qui chauffe, c'est un ordinateur qui tombe en panne. Et donc il faut que ce soit froid. Donc c'est assez intéressant par rapport à l'anthropocène, au réchauffement climatique. Et en fin de compte, c'est très compliqué d'y accéder parce que l'être humain est considéré comme une perturbation dans ces environnements-là, un risque d'accident. Et donc, quand on rentre là-dedans, on est habituellement habillé comme dans des lieux avec un truc blanc, comme dans un truc stérilisé, quoi, complètement. Et on n'est pas les bienvenus. Enfin, contre l'être humain, c'est le territoire des machines, ça. Hein, c'est la mémoire des machines. C'est notre mémoire. L'être humain n'est pas le bienvenu. Et donc, j'avais fait ce long travelling, qui était une espèce de point de vue toujours très... très albertinien, très avec une perspective très... où on plongeait, et où finalement, on avance toujours et on rentre jamais dedans, en fin de compte. C'était toujours resté en surface. Et puis, tout ça, ça m'avait mené sur cette question d'identité. Et c'est lié à Islande, parce que c'est des choses, Islande, c'est des choses qui ont été, comment dirais-je Islande, en fin de compte, ça a été une espèce de projet matrice où s'est décliné plein de choses, c'est-à-dire la découverte d'un paysage sans être humain, en l'absence de l'être humain. Donc, télofossile, c'est un mot que j'ai créé aussi. Donc, c'est les fossiles de la faim. C'est très simple, c'est se dire, il y en a eu plusieurs versions, mais c'est se dire, bon, si demain nous disparaissons, si l'espèce humaine disparaît, et elle disparaîtra nécessairement, toutes les espèces naissent et disparaissent. Et peut-être pas à cause de nous, hein, il suffit d'un météorite. Puis, et imaginons, dans 1000 ans, une intelligence autre arrive sur Terre, qu'est-ce qu'elle découvrirait de ce que nous avons été? Et ce qui est sûr, c'est que notre époque serait surreprésentée en termes de fouilles archéologiques. Je passe rapidement ces images-là, parce que c'était une exposition avec plein de pièces. Je passe rapidement, mais il y a des céramiques, mais bon, je vais vous montrer le cœur du dispositif. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette expo? Alors, oui. Alors ça, on ne se rend pas bien compte, mais ça, ça devait faire 10 mètres de hauteur de plafond, c'était assez grand. Et ça, cette vidéo-là, c'est une vidéo où on se déplace sur une espèce de territoire désertique à l'infini. Et ça, c'est des fossiles où on a tout ce qu'on a vu en détail, là, les disques durs. Donc c'était des fossiles d'objets industriels, en fin de compte. Et l'idée, c'est qu'on serait surreprésenté. Parce qu'on a produit un nombre d'objets. Notre époque a produit un nombre d'objets. C'est la caractéristique de notre époque, c'est qu'on a produit un nombre d'objets incomparable par rapport aux époques passées. C'est la quantité d'objets qu'on a produits, c'est fou. Et surtout des objets qui ont une caractéristique depuis un siècle, ils sont identiques les uns aux autres. Avant, ça n'existait pas, les objets absolument identiques. Là, ils sont identiques. Et on peut s'imaginer qu'est-ce que s'imaginerait une autre espèce, machinique, technologique ou vivante, qui verrait ça en essayant de reconstituer ce que nous avons été. Et cette question de l'extinction, qui, pour moi, qui n'est pas une question pessimiste, ça permet de... Parce que nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire. Et ça permet de, en pensant l'extinction, de mieux comprendre ce que nous sommes en train de faire. Je suis très content, il y a un mois, il y a un livre très important qui a été enfin traduit en France, le livre de Ray Brassier, qui s'appelle « Le néant déchaîné », que je vous recommande de lire, qui est l'un des plus grands livres de philosophie. Il y a eu « Après la finitude » de Quentin Meillassou, et puis il y a ce livre-là, à mon avis, dans la philosophie contemporaine, et qui est effectivement sur ces sujets-là de l'extinction, et qui vient d'être traduit en France, enfin. Donc là, c'était tout un projet sur l'extinction, où là, par exemple, il y avait c'était des corps humains, donc là c'était des textures sur des tissus, des textures de corps humains, comme des peaux étendues. Il y avait des céramiques avec des objets qu'on avait trouvés en Chine. Il y avait aussi des dessins, là c'est des dessins de destruction, des plans de destruction, des plans architecturaux de destruction. Ce que je trouvais amusant, c'était un architecte qui prévoit quelque chose qui va être détruit. Donc ce qui pose bien sûr, après il y a plein de relations au totalitarisme au XXe siècle, ainsi de suite. Mais voilà, donc il y avait tout un environnement. Ça, c'était parce qu'on l'a fait en plusieurs. Je l'avais fait en plusieurs versions, mais ça, c'était l'exposition à Pékin. Pour finir, actuellement, je travaille sur la question de l'imagination artificielle. Donc, je travaille en tant qu'artiste et aussi en tant que chercheur à Normale supérieure. Et donc, je vais essayer de vous donner un avant-goût de pourquoi l'imagination artificielle, qu'est-ce que ça veut dire. Alors, pour moi, l'imagination artificielle, c'est un concept beaucoup plus intéressant que l'intelligence artificielle. En fin de compte, l'objectif que j'ai, c'est de remplacer l'intelligence par l'imagination artificielle. Parce que je suis un artiste, donc... Et donc, en fin de compte, je me suis beaucoup intéressé à ce qu'on appelle des réseaux récursifs de neurones. Alors les réseaux récursifs de neurones, quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de fin du travail, on parle de ça, on parle des réseaux récursifs de neurones. C'est des systèmes qui, on leur met beaucoup de données, beaucoup de textes, beaucoup d'images, et ils apprennent tout seuls à faire des choses qui ressemblent à ces images ou qui ressemblent à ces textes. Et actuellement, les résultats sont absolument affolants. Donc ce que j'ai fait comme premier travail, j'ai rentré dans un ordinateur des manuels de dessin pour apprendre à dessiner. Vous savez, les manuels stupides de dessin. Et je lui ai appris comme un enfant à dessiner. Donc, il faisait ces dessins-là. Il a réussi à produire ces dessins-là. Donc, ça produit ces dessins-là que j'imprimais ensuite. Qui avaient une certaine qualité, malgré tout, plastique. Et ça, c'est vraiment l'ordinateur. Et on commençait à voir apparaître des formes avec des cohérences, avec des effets de cohérence. C'est pas de l'aléatoire. Hein. C'est vraiment une machine qui apprend de manière d'ailleurs très intéressante, qui apprend les choses. Et en fin de compte, pourquoi l'enfant ? Parce que souvent, on considère la machine comme un enfant auquel il faut apprendre des choses. Et comme tous les enfants, l'enfant nous fait peur parce qu'il peut devenir un peu un monstre. C'est pour ça qu'il y a tous les discours actuellement sur l'enfant fou, l'enfant qui peut devenir très dangereux. Ensuite, j'ai utilisé ces réseaux récursifs de neurones sur Blow Up d'Antonioni. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait ? J'ai fait passer le film. Et ensuite, il compare les images du film à des images trouvées sur Internet qui sont taguées. Et ensuite, c'est le réseau récursif de neurones, c'est l'intelligence artificielle qui va ajouter des bons titres. Et donc, qui va essayer de décrire ce qu'il voit. Donc, c'est l'ordinateur qui essaie de décrire ce qu'il voit. Et ce qui est hallucinant quand on passe Blow Up, c'est que ça raconte une histoire, mais complètement différente du film d'Antonioni. Donc, c'est la manière dont la machine voit les choses. Et ce qui est amusant, c'est que non seulement ça raconte une autre histoire, mais nous, ce qui est amusant, c'est que comme on connaît le film, on regarde ce qu'imagine la machine et on le compare au film qu'on connaît. Et nous, ça nous fait aussi imaginer une autre histoire encore. C'est pourquoi la machine a compris des choses comme ça et on essaye de suivre la machine ou de comparer avec ce qu'on connaît. Et donc, il y a une imagination qui est de plus en plus... Là, il reconnaît que c'est un homme, mais il n'y a pas la femme. Quoi. La femme, elle disparaît. C'est l'homme tout seul dans le parc. Là, il est sur un banc. Là, a man is doing a trick on a skateboard. Et en fin de compte, la question du skateboard va bizarrement souvent revenir quand il a l'appareil photographique. Donc bizarrement, pourquoi ? Parce que, je sais pas. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, les gens qui font du skateboard se filment souvent, finalement. Je sais pas. Et donc, on commence à avoir une autre narration, mais qui n'est pas la narration seulement de la machine, qui est nous, nous imaginons la machine faire quelque chose. Donc on a une imagination de l'imagination. Et la question, que je me pose, c'est que quand on imagine, est-ce que ce n'est pas toujours une imagination de l'imagination? Quand on voit un film, on s'imagine ce qu'a imaginé l'auteur ou ce qu'imaginent les acteurs. On n'est jamais seul dans notre imagination. Ce n'est pas du tout un monde clos. Alors, ensuite, je me suis dit, bah, on va compliquer les choses un peu. Je lui ai appris à faire de la peinture. En lui rentrant, globalement, c'était la collection du MoMA, je pense. J'avais piqué la collection du MoMA et je lui fais rentrer la... Donc il peint comme ça, quoi. Et alors, ce qu'il fait après, c'est que ce que je vous ai montré précédemment avec Antonioni, je rentre cette image et je lui demande de décrire. Donc, en fin de compte, il fait son propre titre, en fin de compte. Il essaye de... Donc là, c'est des fleurs violettes, bon, OK. Sur ce tableau, c'est un chat assis sur encore un banc. Bon, parce qu'il a dû reconnaître, il s'est dit, tiens, là, peut-être il y a des oreilles, etc. Donc, c'est très ouais, en plus, comme c'est des tableaux abstraits, c'est très drôle parce qu'on essaye toujours, les tableaux abstraits, de reconnaître des choses. Alors là, c'est quoi? C'est un donut qui est couvert d'un glaçage, une tuffering. Et alors, celui-ci, c'est des oiseaux dans l'eau. Et ce qui est génial, c'est qu'on comprend pourquoi. Parce qu'il y a des ondulations de l'eau. Donc, on comprend qu'il a compris ça. Et pour moi, l'imagination artificielle, ce n'est pas l'imagination de la machine, c'est nous imaginons la machine imaginée. Et c'est quelque chose, en fin de compte, quand je vous parlais de Alison's Secret avec les chatbots, c'est le même problème. C'est cette espèce d'entre-deux entre l'être humain et la machine. Et puis, j'ai fait un autre projet, je me suis dit tout de même, les rêves, c'est intéressant. Parce que, bien sûr, comme tout le monde, parfois, je me réveille à côté de la personne aimée, et elle dort encore, et je l'imagine rêver. Et je ne sais pas ce qu'elle rêve. Donc, ce que j'ai fait... Alors, j'arrête là pour l'instant. Je vous montre l'installation. Donc, ça s'appelle Memory Center. Et c'est une installation... Donc, j'ai travaillé avec l'université de Santa Clara, en Californie. Il y a deux psychologues qui ont récupéré 20 000 rêves. Ils ont fait une base de données de 20 000 rêves. J'ai rentré ces 20 000 rêves dans un réseau récursif de neurones qui a appris à rêver. Donc, il peut créer des rêves. Donc, il y a une voix off en synthèse qui dit un rêve, il crée automatiquement un rêve, et ensuite il va chercher sur Internet trois images qui correspondent aux mots-clés du rêve. Et très bizarrement, alors il faut voir l'installation, ce qui est hallucinant, c'est que comme le rêve c'est un peu flottant, la signification est toujours incertaine, il y a un décalage entre bien sûr le texte et les images, mais on accepte ça, et souvent les trois images racontent une histoire. Et on arrive à se raconter une histoire. Et donc c'est une machine à faire du rêve. Pourquoi? Parce que le web 2.0, à partir du moment où on a enregistré toutes nos mémoires sur Internet, ça a peut-être permis aux machines de nous rêver. Que nos mémoires deviennent leurs rêves. Alors, je ne dis pas ça seulement métaphoriquement, hein, c'est un peu ce qui se passe. Donc, c'était une installation comme ça, qui tournait comme ça, de manière infinie. Et alors, ça me mène à l'avant-dernier projet. Donc ça, c'est le gros, gros projet sur lequel je travaille, qui s'appelle, en fin de compte, Terre Seconde. C'est assez ambitieux comme projet. Donc, en fin de compte, ce que j'ai commencé... j'aime beaucoup les photographies satellites. J'ai une passion pour les photographies satellites. Je trouve ça super beau. J'adore voir la Terre de loin. Donc, j'ai nourri une machine de photographies satellites et il a commencé à apprendre à faire des photographies satellites. Et donc, j'ai commencé à élaborer l'idée de faire une deuxième Terre qui serait nourrie par toutes les données que nous avons accumulées. Et je me disais finalement, c'est peut-être l'objectif des machines de faire une deuxième Terre, c'est-à-dire de refaire ce que nous avons fait une deuxième fois. Bien sûr, l'art, c'est une question de représentation, mimésis, traditionnellement. Et on peut se demander si les machines sont pas en train de... Elles sont pas en train de faire ça, finalement, quand on parle d'intelligence artificielle. Toutefois, pour finir, ceci existe depuis longtemps. Alors, je vais vous montrer une vidéo que je me suis appropriée, qui existe sur Internet, mais c'est une vidéo que j'ai prise à mon compte. Et qui est l'une des vidéos, les plus belles vidéos d'exposition qui existent. Alors ça, c'est la définition de l'art. Ça veut dire que cette question de la représentation, elle n'est pas qu'humaine, quoi. Elle n'est pas seulement anthropologique. Parce que là, il est dans la représentation. Clairement. Il sait que c'est et que ce n'est pas à la fois. Il sait que c'est un chat et il sait que ce n'est pas un chat. Et bah, vous savez, il y a cette fameuse définition de l'aura chez Benjamin. L'aura, c'est quelque chose qui pourrait lever les yeux sur nous. Pas qu'il l'aime, mais qui pourrait lever les yeux sur nous. Et c'est exactement la situation dans laquelle est ce chat. Donc si un chat peut être en, peut avoir affaire à l'art et à la représentation, je ne vois pas pourquoi les machines ne le pourraient pas. Voilà. C'est globalement ça. Est-ce qu'il y a des questions?
Merci beaucoup. Une foule de questions.
C'était juste sur la vidéo en fait, qu'on avait vue avant, du coup, est-ce que vous pourriez nous en dire juste deux mots ?
Sur Islande ?
Oui.
Sur Islande, en fin de compte, bah, c'est ce que je vous avais dit un peu au début. C'était vraiment une première. En fin de compte, c'est vraiment un travail qui a été une espèce de matrice pour tout ce que je vous ai montré après, beaucoup de choses que je vous ai montrées. C'est-à-dire, d'abord, il y avait. Alors, c'était pas le désir de faire un message politique, hein, mais il y avait tout de même. C'était la situation d'un énervement politique très important sur la question de l'identité. Sur le fait que les politiques se sont... Non, mais c'était vraiment le point de départ. Il y avait vraiment une réaction à ça, ce qui fait que j'ai fait plein de travaux sur l'identité. Et après, en fin de compte, la manière dont j'ai fonctionné, c'est vraiment, je me suis dit, identité, empreinte. Et donc, en fin de compte, ce qui me semblait intéressant, c'est que j'utilisais une technique de surveillance, c'est-à-dire un capteur digital, pour faire dire à l'empreinte exactement ce qu'on ne lui fait pas dire habituellement. C'est-à-dire, habituellement, une empreinte digitale, c'est pour savoir qui est qui. Mais à partir du moment où on se déplace indéfiniment sur un paysage qui est sans fin, qui est infini, qui est désertique, à partir de là, c'était juste une manière assez simple de montrer que l'identité, c'est un problème complexe. Et que les gens qui disent qu'un système politique qui dit « je sais ce qu'est l'identité », il y a de la terreur derrière ça. C'est dangereux, quoi. C'est vraiment dangereux. Et donc, il me semble que dans beaucoup de technologies, et c'est ce que j'essaye de faire globalement dans mon travail, c'est globalement les technologies d'Internet et tout ces trucs-là, c'est le capitalisme qui utilise ça pour nous capturer, savoir ce qu'on fait, pour nous surveiller, quoi, globalement, pour nous transformer en consommateurs permanents. Bon. Et moi, ce que j'essaye de faire, de manière très limitée, avec des moyens très limités, c'est de montrer qu'avec exactement les mêmes ingrédients, on peut exactement dire l'inverse. On peut exactement faire l'inverse. C'est-à-dire faire quelque chose d'un peu plus sensible, qui laisse un peu plus de place à l'émotion, quoi. Bon, à l'imagination, c'est des données, des idées très simples, mais bon, voilà. Et donc, Islande, c'était vraiment... Et puis le titre, c'était aussi, bah, bien évidemment, c'est un jeu de mots, hein, nous sommes tous des îles, quoi, l'idée de l'insularité, nous sommes tous des îles, nous sommes notre propre île. Et Islande, c'était ce jeu de mots, nous sommes notre propre pays. L'identité, il n'y a pas d'identité collective, parce qu'il n'y a pas d'identité individuelle. Et en tout cas, l'identité individuelle, elle est comme un iceberg, c'est-à-dire, elle fond... Elle dérive et elle est interminable. On n'en voit jamais le bout. Je ne sais pas si je réponds à votre question.
Si, si.
Mais voilà. Après, ce qui est intéressant, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé, parce que je m'en suis rendu compte après, c'est que ce travail a donné lieu après à toutes ces vidéos où je me déplace sur des espaces en traveling de manière infinie. Et qui est un travail très particulier parce que... c'est un langage qui, le travelling, qui a été beaucoup utilisé dans le champ de l'art contemporain dans les années 90, dans ce qu'on appelle le post-cinéma. C'est-à-dire des gens qui se sont beaucoup inspirés de Tarkovsky, de long travelling, de Dominique Gonzalez-Forester, tous ces gens-là qui ont fait plein de films comme ça. Et à mon avis, bon, moi je suis très critique par rapport à ces pratiques-là, j'ai été extrêmement critique. Et ce que je trouvais intéressant dans les travelling que j'essayais de faire, c'est qu'ils étaient sans fin. Ils étaient sans fin. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de début, il n'y avait pas de fin. Donc il n'y avait pas de point d'arriver. Alors ça, je pourrais en parler. Enfin, je sais pas si c'est parce que c'est une des caractéristiques de mon travail, c'est que je pense que dans le cinéma, il y a toujours un début, une fin. À un moment, ça s'arrête, quoi. Et puis le film, c'est toujours le même qu'on voit, quoi. Même si on l'interprète de façon différente, c'est toujours le même en général, sauf parfois le cinéma expérimental. Et moi, je suis un peu un ennemi du cinéma, je l'avoue. Hein. Je suis pas du côté du cinéma. C'est-à-dire que j'aime imaginer que je fais des choses qui n'ont pas de fin et potentiellement qui n'ont pas de début. Quand on arrive dans une installation et qu'on sait qu'on n'arrive pas au début de la séance, c'est complètement une autre expérience que quand on... Quand ça a plein de conséquences, hein, sur le début, la fin, le milieu, l'identification, etc. Donc voilà, donc dans ce travail, il y avait le début de ce déplacement infini et où on peut regarder 30 secondes ce truc, on n'est pas obligé de rester une heure à voir ce machin. C'est-à-dire, c'est assez ennuyeux. Hein, je veux dire, c'est ennuyeux, c'est quand même un économiseur d'écran. Et j'aime bien aussi l'idée d'une image d'ambiance. Parce que quand on fait des images fortes, intenses, qui capturent l'attention, je trouve ça extrêmement violent, en fin de compte. Je trouve que c'est faire violence. Et finalement, Alors je vais, moi, c'est une discussion. En fond, c'est une discussion. Peut-être vous connaissez sûrement Bruno Dumont. Comme, c'est un réalisateur de cinéma français, à mon avis, un des très grands réalisateurs de cinéma. Et on avait donné des cours ensemble au Fresnoy, ensemble sur la question du scénario. Il a fait L'Humanité, La vie de Jésus. Si vous n'avez pas vu ces films de lui, il faut vraiment faut foncer voir ces films parce que il y a quelque chose, quoi. C'est clair qu'il y a quelque chose. Et justement, on faisait un cours où on s'est beaucoup, pas engueulé, mais on a beaucoup lutté. En plus, il y avait les Straub qui venaient au cours, c'était compliqué et tout ça. Et c'était justement, il y avait deux mondes. Il y avait lui, le monde du destin, c'est-à-dire il y avait un début, une fin, une fatalité. Et moi, j'étais dans un monde beaucoup plus flottant, quoi, beaucoup plus incertain. Et dans cette vidéo Islande, il y a quelque chose qui est une image indifférente, assez indifférente, qui ne. Et l'une des discussions qu'on avait eues avec Bruno Dumont, c'était, je lui disais, mais finalement, tu es du côté de TF1, quoi. Parce que tu essayes de faire mal aux gens, de leur donner de l'intensité, de les capturer, quoi. Voilà. Donc là, il y a effectivement, on pourrait voir 10 secondes, cette image, c'est suffisant. Mais on peut rester aussi.
Et dans ces cas-là, pourquoi avoir mis du son? La bande sonore, elle est quand même assez.
Présente.
Ouais.
Parce qu'on n'échappe peut-être pas complètement à la narration. Pourquoi? Parce que il y avait d'abord parce que il y a des amitiés, c'est-à-dire que bon, je travaille souvent avec des gens, avec des musiciens, etc. Mais c'était aussi l'idée de. Il y avait un côté un peu méditatif, quoi, clairement. C'est-à-dire, moi, je suis très quoi, tout ce qui est la culture psychédélique, l'architecture psychédélique, le cinéma expérimental psychédélique, qui est pour moi un moment très important des années 60, quoi. Et donc, il y avait aussi un côté très méditatif comme ça, de voir cette image et d'avoir ce son qui est un peu dramatique, tout de même. Il y a un côté un peu dramatique et oppressant, dramatique, en même temps avec un peu d'espace, qui est un peu de largeur comme ça. Et effectivement, ça, moi, je trouvais que ça ajoutait quelque chose d'un peu d'imaginaire, quoi.
Mais je trouve que du coup, on est un peu dans la narration.
Oui, non, mais c'est pour ça qu'on n'y échappe pas complètement. Il y a quelque chose de narratif, mais en tout cas, c'est une narration qui ne s'arrête pas. Donc, il n'y a pas l'identification propre à la narration aristotélicienne, pour le dire comme ça, avec voilà, la catharsis, tout ce truc-là, que moi, je trouve ça pas. Ça me plaît pas du tout. Et donc voilà. Et puis j'aime bien l'idée de faire des économies hors d'écran. J'aime bien cette idée-là. Ça me met à un niveau très bas, très flat. Et j'aime bien être à ce niveau-là.
Un peu au-dessus de l'économiseur d'écran, il y a la bande. Vous avez travaillé avec des musiciens justement pour ce
Ouais.
genre d'image. Il y a des musiciens qu'on aimait utiliser notre art en concert, des choses comme ça. Ça s'est passé régulièrement ou...
Parfois, des images ont été utilisées sur des vidéoclips, etc. Sur des concerts, alors, j'ai pas eu le temps de parler parce que là, c'est qu'une toute petite partie de mon travail, hein. J'ai pas eu le temps de parler, alors, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des musiciens. Alors, je travaille avec deux musiciens, principalement. Christophe Charles, qui est prof à Tokyo et qui fait de la musique, des choses que vous avez entendues, parmi les choses que vous avez entendues là. Et Olivier Allary, qui vit à Montréal, mais qui est français, qui avait fait Medulla de Björk, qui avait travaillé avec Aphex Twin, tout ça. Et on a eu un projet qui nous a pris 6 ans de notre vie, qui s'appelle Capture, qui est assez drôle. En fin de compte, c'est un projet de groupe fictif. Donc on a fait des concerts et tout ça. Certains réussis, d'autres moins. Parfois, c'était un peu. Mais certains étaient sympas. Donc, en fin de compte, c'était un projet. On disait, voilà, les industries culturelles vont disparaître. Elles n'arrêtent pas de raconter le fait qu'elles vont disparaître. Et donc, voilà, elles mettent en scène leur mort parce que. Parce que le peuple vole les MP3 et donc c'est la fin des industries culturelles. Et donc face à ce problème économique, voilà, je me suis dit, on faut trouver une solution parce qu'ils ont l'air vraiment mal. Et donc l'idée de Capture, c'est de faire un groupe tellement productif que personne ne peut tout entendre. Donc on ne peut pas le voler en fait. Ça produit, tu télécharges un MP3, il y en a 10 d'autres qui sont produits. Donc c'est submerger le consumérisme par le productivisme, donc accélérer. Et c'était de la musique pop. Donc, on produisait des t-shirts, des livres, des interviews, des vidéoclips, des tweets, des réseaux sociaux, de la musique. Et en musique, je sais pas, je peux vous faire écouter, si ça vous
Ça
amuse.
continue à produire encore.
Ouais, ça continue à produire. Là, je sais plus, on est à, je crois, 150 ans de musique. Ça, c'est affreux, quoi. Donc ça a pris plein de formes. Bah, c'est un projet ça a été un projet de recherche que j'ai mené au Canada, etc. Ça a pris plein de formes différentes. Je sais pas si on va. Ah, peut-être que le firewall ne permet pas de faire ça. Ah, si. Bon, donc ça c'est des musiques un peu au hasard. Je vais écouter un morceau. C'est complètement généré sur ordinateur. C'est une boîte synthèse. De la pop, hein. Normal. Je voulais justement, parce que la musique contemporaine, atonale, c'est très facile à générer. Ça a été un cauchemar à générer. Je pense. Ça a été très très difficile. Donc voilà, donc oui, il y a, mais disons que c'est moins par rapport à des demandes qui ont été d'utiliser des images en concert comme image de fond, je l'ai plutôt refusé. Je préfère travailler vraiment avec des musiciens et complètement mêler les deux univers pour vraiment faire des projets sur ce que c'est que la musique aujourd'hui, sur ce genre de choses. Voilà, plutôt que de faire, alors pour le coup, que la musique, que l'image soit un économiseur d'écran presque, pour le coup, avec une vache, une fractale, une vache 3D et la fractale derrière. Après, j'ai des amis comme Jacques Carconte, etc., qui font beaucoup ça, qui travaillent beaucoup sur ce type de sujet. Moi, pour l'instant, voilà, je suis plus, c'est plus ce genre de choses qui m'intéresse, quoi. Donc voilà. Il y a deux, trois questions.
Mais vous avez évoqué le cinéma plein de fois, donc
Ouais.
ici dans la bibliothèque, le cinéma s'appelait, même si vous avez dit à un moment que vous n'aimiez pas le cinéma.
Ouais,
Vous avez
je suis
fait
pas, c'est pas
l'expérience
que j'aime
du
pas.
monde. Mais du coup, à un moment, vous avez abordé la question de l'intelligence artificielle, enfin la pseudo
Ouais.
intelligence artificielle et la création de textes littéraires, voire de scénarios. On a tous entendu parler ici de trucs qui ont donné des résultats totalement aberrants,
Aussi aberrant que le cinéma de
presque
science-fiction des années
grotesques.
70.
C'est ça, voilà. Les gens comparaient ça
Ouais.
avec des. Et alors, du coup, enfin, moi, j'avais juste vu ça sur un article. Vous
Ouais.
en savez plus un peu sur ces
Oui, moi
résultats?
c'est vraiment ma spécialité, puisque moi j'ai un séminaire de recherche à la Normale supérieure sur ce sujet, donc
Oui, je vous entendais en parler
on est
avec.
vraiment à fond. Moi je suis vraiment sur ce sujet. Les résultats sont assez impressionnants. D'abord, la génération automatique de texte, ça marche depuis assez longtemps. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec un poète qui s'appelle Jean-Pierre Balpe, qui depuis des années fait des générateurs de texte, d'une qualité exceptionnelle. On arrive à faire des nouvelles littéraires de bonne qualité. Il me racontait une histoire assez amusante. Lui, ça fait 40 ans qu'il fait ça. Hein. Mais à un moment, il avait fait un générateur de nouvelles policières. Il avait envoyé trois nouvelles policières à un éditeur sans dire que c'était une machine qui avait créé ces nouvelles. Et l'éditeur lui dit, mais on va te publier. On va faire un livre. Est-ce que tu peux m'envoyer plus de nouvelles? Le lendemain, il lui envoie un tas comme ça. 800 nouvelles, mais 10 000 pages, quoi. Plus de nouvelles de l'éditeur. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la question, c'est pas de savoir si les machines sont douées d'imagination ou elles sont capables de faire de la fiction. C'est plutôt le fait que, d'abord, quand nous lisons une fiction, les lacunes de sens, les incohérences, nous les comblons, parce qu'il y a un contrat qui fait que il y a un contrat qui fait qu'on projette aussi le sens dedans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, parmi les participants à la production de l'imagination, les machines vont être un des participants. Sur aujourd'hui, la scénarisation, générer des films, c'est pas très, quoi, générer en tout cas des histoires, c'est pas super compliqué. D'ailleurs, les procédures de production aujourd'hui, de l'écriture à Hollywood, sont pas très loin, quasiment, d'une machinisation de l'être humain, quoi. Je veux dire.
Oui, il y a des logiciels de création de scénario, mais c'est des logiciels d'intrigue, disons,
Oui.
d'intensité, etc. Les textes en eux-mêmes, enfin, l'article que j'avais lu vraiment sur le monde, hein, de donner effectivement de trucs surréalistes, rappelant
Oui, mais
effectivement la science-fiction. Hein.
Alors,
La structure des maquis et tout ça, c'est déjà.
ça change un peu. Alors, il y a un
Peut-être, hein,
exemple.
ça date un peu, alors qu'il y a un an ou 2 ans.
Alors, il y a un projet que j'avais fait pour vous peut-être répondre à la question de l'écriture du texte. Alors, je vais vous raconter une histoire. Alors, où est-ce que c'est? Je dois juste retrouver le... ça doit s'appeler, je pense que c'est un projet qui s'appelle Roman. Alors, c'est une histoire vraie, hein, et c'est un projet qui existe vraiment. Voilà. Donc Roman, il est né en 81. C'était un Russe, jeune, beau, brillant. Il faisait partie de la nuit moscovite et tout ça. Brillant, et vraiment, il avait un brillant avenir devant lui. Et il se trouve que le 28 novembre 2015, il est mort écrasé par une voiture. Brutalement. Et ses amis ont été, sa famille était vraiment dans le désarroi, parce que cet homme qui avait une trentaine d'années, bah, ça s'est arrêté vraiment très très vite. Et il a l'une de ses amies, Eugenia, a une société qui s'appelle Replica, qui fait des chatbots avec des réseaux récursifs de neurones. Et ce qu'elle a décidé, elle a demandé à tous les amis, à la famille, tous les textes de Roman. Elle a nourri un chatbot avec tous ces textes. Et depuis, sur Twitter, on peut discuter avec Roman. Alors, j'ai fait une vidéo sur ça. Donc là, c'est un dialogue entre... voilà, ça c'est Roman. Donc, voilà comment fonctionne le chatbot. C'est pas des phrases tirées au hasard, hein, c'est... J'avance, parce que là c'est une vidéo avec des photos de Roman. Donc. Bon, donc par exemple sur les dialogues, on pourrait tout à fait avoir des... Alors, c'est pas tellement remplacé, mais c'est plutôt de l'aide à la création, je dirais. On pourrait le concevoir comme ça. Voilà, c'est-à-dire que ça donne des possibilités. Ça peut donner des possibilités. Il y a le fait qu'aujourd'hui, Roman, quand on discute avec lui... c'est très étonnant parce que c'est pas des phrases tirées au hasard de ce qu'il a, c'est vraiment avec un dictionnaire, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et on a vraiment l'impression de discuter avec quelqu'un.
Et en anglais ?
Oui, c'est en anglais parce que les textes étaient en anglais. Alors c'est très émouvant parce que sa mère raconte que la mère de Roman raconte que parfois elle va sur Twitter pour parler avec son fils. Elle sait bien que c'est pas son fils, mais simplement comme les textes dont est nourri le bot, c'était pas des textes qui étaient nécessairement destinés aux parents. Mais aussi à des amis, elle découvre des choses sur son fils après sa mort. Ça veut dire que d'une certaine manière, on sait bien que c'est pas lui, mais une forme de résurrection, une forme de survie a lieu. Et j'en parlais avec un ami, Pierre Kasounoguès, qui est philosophe, qui bosse sur ces questions d'intelligence artificielle. Et on s'imaginait que finalement, une fois par an, le jour de l'anniversaire de la mort ou de la naissance de nos défunts, on pourrait avoir un certain plaisir à avoir ces chatbots, même si on sait que c'est pas eux, mais à pouvoir discuter un peu avec ces choses-là une fois par an ou deux fois par an, et que ça pourrait tout à fait marcher. Donc voilà. Après, moi, j'accorde pas de pouvoir magique à ça, parce que je pense que c'est aussi beaucoup notre imaginaire qui fonctionne. Hein, c'est ça, c'est notre désir. Mais ça veut dire aussi que quand je vois un film aujourd'hui, je suppose que c'est un être humain. Et il y a cette belle phrase de Warhol qui dit « J'aimerais devenir une machine à peindre ». Voilà, donc, si on peut avoir des doutes sur l'humanité de la machine, ayons des doutes sur l'humanité de l'être humain de la même façon. C'est un peu ça. Mettons un peu les mêmes choses. Voilà. Service client, extraordinaire. Mais bon, après, je pense qu'il y a, il y a aussi, c'est aussi une très belle occasion d'imaginaire, hein, et de narration aussi, de nouveaux modes de fiction, et qui ne sont pas... la machine contre l'être humain, mais vraiment quelque chose qui est beaucoup plus une zone grise entre les deux, qui est déjà le monde dans lequel on vit. On est déjà assez hybridé finalement, et je pense qu'il y a des occasions là pour l'art qui ont une vraie poésie, je crois, qui ont une vraie poésie.
Oui. Ce qui fait un peu peur de tout ça, quand on pense à la possibilité de parler avec, même avec des personnages du passé qui vont ou la mentalité, quand je vois Her, le film. Tout ça, j'ai la première chose que je pensais, oui, on va devenir immortel et tout ça, mais le problème, c'est qu'on sait que toujours les pouvoirs économiques, enfin, les capitalistes, etc., ils prennent tous. Donc, on s'est dit à quel point, quand on est en train de réfléchir sur l'intelligence artificielle, mais maintenant sur la créativité artificielle et tout ça, On commence à comprendre comment on apprend, comment on fonctionne aussi pour apprendre, et comment ça fonctionne, et donc à modéliser les cerveaux humains et l'apprentissage. Donc ça fait un peu peur d'imaginer que ça va être pris un jour et qu'on va commencer à modéliser notre intelligence de plus en plus. Enfin, c'est déjà un fait, mais pire quoi, c'est comme qu'à chaque fois, des bonnes initiatives, de l'art, des discours, du féminisme et tout, ça a été toujours pris pour le pouvoir, pour nous faire encore pire, quoi. Donc,
alors, ça c'est un problème général. Hein.
Oui.
C'est le problème de la réification.
Okay. Hein. Comment vous assumez votre recherche par rapport à ça? Parce qu'un jour, ça va être de plus en plus pris pour le pouvoir, pour nous soumettre.
Alors, non, mais c'est une vraie question. Hein. C'est la question des situationnistes. Que faire par rapport à la domination au capitalisme? Est-ce qu'on n'en fait pas toujours partie? Aujourd'hui, il y a des t-shirts Che Guevara, mais qu'est-ce que... On est dans quoi? Je veux dire, bon, est-ce qu'il y a un en dehors du système, sans être naïf, etc. Non, mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et puis, tous les discours pseudo-deleuziens de résistance en art sont insupportables. Comme c'est parce que c'est naïf, quoi, parce que ça ne fait pas le poids.
Bon,
ça ne fait pas le poids à la domination. Alors, c'est une question très compliquée qu'on ne va pas résoudre là. Toutefois, je pense qu'il y a aujourd'hui, il y a des plateformes qui existent. Je pense en particulier d'un point de vue politique et artistique à l'accélérationnisme, c'est-à-dire qu'il y a un manifeste accélérationniste qui consiste à dire accélérons encore plus, parce que en fin de compte il y a des potentialités dans la domination qui sont en dehors de la domination. Ne faisons pas de la décroissance, mais accélérons. Et je pense que ça fait partie des hypothèses de plateformes dont il faut discuter. Voilà. Alors pourquoi moi ça m'intéresse et pourquoi en quoi c'est lié à ma pratique artistique? Même si j'estime que ça ne va rien changer ce que je fais. Quoi. À la limite, je sauve l'honneur. Non, j'essaye de montrer qu'il y a d'autres possibilités. Bon, il y a d'autres possibles, ce qui est déjà pareil. Mais c'est parce qu'en fin de compte, moi, et ça a été une grande discussion avec pas mal de mes camarades artistes, moi, depuis longtemps, depuis les années 90, j'utilise les Internet, les trucs de surveillance. C'est-à-dire les armes qui sont habituellement utilisées par la domination. C'est sur ça que je travaille, en fait, sur le capitalisme, ça m'intéresse. Bon. Je ne veux pas me placer à l'extérieur parce que je trouve que c'est une position inefficiente. C'est une position moraliste, de curé, bon, pour le dire, de prêtre. Et donc, le truc, c'est que j'essaye d'utiliser ces Google, j'ai aucun mal à utiliser Google, Twitter, Instagram, qui sont des armes de domination massives, pour montrer que de ça, on peut en faire autre chose. On peut vraiment en faire autre chose. Et que même le capitalisme méconnaît son affectivité. Le capitalisme est infiniment plus sentimental qu'il ne le croit. Il y a presque un romantisme capitaliste ignoré de la domination. Pourquoi? Parce que le consumérisme, tout ce monde, je pense qu'on est tous un peu... On a tous un peu la nausée de ça. Hein, j'imagine. On se rend bien compte qu'on arrive au bout d'un truc. Quoi. Malgré tout, que là, dans le Forum des Halles, le samedi après-midi, que d'affect, que de désir. Et ça reste du désir. Et ça reste quelque chose qui est assez beau, finalement, de voir ces gens qui projettent leur désir dans des objets. Donc il y a peut-être une beauté là-dedans qui est méconnue et qu'il faut peut-être, plutôt que de se dire, il faudra tout de même faire la révolution, ça n'empêche, mais on peut faire la révolution aussi en n'étant pas en réaction. Mais en étant plutôt en accélération. Voilà. C'est plutôt ma voix. Après, c'est des problèmes compliqués. Hein, parce que là, quand on a vu arriver les t-shirts Che Guevara, ça a tout de même été un petit choc. Hein, tout de même, moi, c'est pas ma culture. Ça
fait 40 ans que c'est le t-shirt de Che Guevara.
Alors, je pense qu'il y a eu tout de même à partir. Alors, moi, je pense que la généalogie est un peu différente. Je pense pas que ça fait 40 ans. J'ai l'impression qu'il y a eu un truc qui s'est passé quand il y a eu un truc... je pense que les t-shirts Che Guevara, c'est il y a une quinzaine d'années. Il y a 15-20 ans. Moi, quand j'étais ado, il n'y avait pas de t-shirt Che Guevara. C'était une figure romantique. Mais ce business autour de Che Guevara... En tout cas, ça s'est accentué.
Sûrement.
Ça s'est accentué.
Ça s'est accéléré.
Ça s'est accéléré, etc. Ça s'est accéléré, tout à fait. Et donc, effectivement, ta question est exacte, quoi. C'est parce que faire de l'art, si c'est juste pour faire de la culture, moi, ça ne m'intéresse pas, quoi. C'est pas le but, quoi. Il s'agit d'agir, quoi, un tant soit peu, sans être complètement allumé et de croire qu'on va faire la révolution avec deux, trois images ramassées sur Internet. Mais il s'agit de comment agir et comment l'art, avec d'autres personnes, on peut... Alors, ce qui est par contre très intéressant actuellement, je trouve, depuis 7-8 ans, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, d'artistes, de théoriciens, etc., et les gens commencent à travailler ensemble. C'est-à-dire qu'à nouveau, des théoriciens et des artistes travaillent ensemble. Et ça, c'est un phénomène, plutôt dans le monde anglo-saxon d'ailleurs, mais c'est un phénomène très nouveau. Parce qu'en fin de compte, on s'intéresse aux mêmes choses. Donc, on ne s'intéresse plus à l'art ou à la théorie, on s'intéresse à des choses qui sont dans le monde. L'anthropocène, le capitalisme, la cybernétique, quoi, tous ces trucs-là. Comment ?
C'est ce que vous faites. Hein.
C'est, oui, quoi. Après, effectivement, il y a vraiment des réseaux internationaux qui sont en train de se mettre en place avec des vraies plateformes de réflexion. Ça va prendre du temps parce que, de l'autre côté, ils ont beaucoup réfléchi. Hein. Le projet néolibéral, c'est assez lointain, finalement. Ils ont mis du temps, ils ont commencé par l'université, et puis progressivement. Donc il faut prendre le temps de vraiment réfléchir et de se mettre en place. Mais je trouve qu'il y a, en tout cas, il y a des idées en ce moment très intéressantes et assez nouvelles, quoi, assez excitantes. Et c'est en train de se mettre en place, même le renouveau du féminisme, quoi, il y a plein de choses. Quoi. Comme ça, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Moi, je suis très enthousiaste. Je dois l'avouer. Donc voilà. En tout cas, merci, merci, cher public. Mais en tout cas, merci d'être... Ouais.